VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 18h30 TU, Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 19 juillet 2017. John Linden en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara remanie son gouvernement. Ahmed Bakayoko quitte le ministère de l'Intérieur pour celui de la Défense. Toujours en rapport avec la Côte d'Ivoire, la Chambre d'appel de la CPI a cassé la décision refusant de libérer l'ancien président Laurent Gbagbo. En RDC, le procès en appel de l'opposant Moïse Katumbi s'est ouvert à Lubumbashi aujourd'hui. En France, Pierre de Villiers démissionne du gouvernement. Le chef d'état-major des armées avait critiqué les coupes budgétaires dans la défense. Et puis, nous retrouverons Yacouba Ouédraogo pour les sports et Jacques Aristide pour la Multéco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a cassé la décision refusant de libérer l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo pour le reste de son procès. Lionel Gaïma.
La Chambre d'appel de la CPI a ordonné à la Chambre de première instance de réexaminer le dossier pour savoir si M. Gbagbo devrait continuer à être détenu ou devrait être libéré avec ou sans condition. Premier ex-chef d'État remis à la CPI, Laurent Gbagbo avait fait appel en mars de la décision de la Cour et de le maintenir en détention à La Haye pendant toute la durée de son procès. L'ancien président, âgé de 72 ans, et Charles Blé Goudé, ancien chef de mouvement pro-Gbagbo de Jeunes Patriotes, sont accusés de meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Les deux hommes ont plaidé non coupables. Le procès, qui devrait durer 3 à 4 ans, s'est ouvert le 28 janvier 2016 à La Haye. Laurent Gbagbo avait été livré à la CPI en 2011 et le procureur est toujours dans le processus de collecte de preuves. L'ex-président ivoirien restera en détention jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée.
Dans le même registre, Assoua Adou, ancien ministre de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, a été condamné mardi à 4 ans de prison pour trouble à l'ordre public par la cour d'assises d'Abidjan. Côte d'Ivoire, toujours, le président ivoirien a opéré un changement à la tête de certains ministères, dont celui de la Défense. Les détails avec notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
Le remaniement intervenu ce mercredi a surpris plus d'un Ivoirien et fait suite à une série de limogeages dans l'administration et à une nouvelle mutinerie au sein de l'armée. Et pour mettre justement de l'ordre dans les casernes, Alassane Ouattara, le président ivoirien, a confié le ministère de la Défense à l'un de ses plus fidèles collaborateurs, Ahmed Bakayoko. Ce dernier laisse l'intérieur et la sécurité à Sidiki Diakité, préfet de la ville d'Abidjan. Quant à Alain Richard Donwaï, cadre du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, il fait les frais des multiples troubles dans l'armée et quitte le ministère de la Défense pour celui des eaux et forêts. Autre fait notable, le changement intervenu à la tête de la fonction publique. Le général Issa Koulibaly hérite de ce portefeuille au détriment de Pascal Abinan Kwaku qui aura en charge le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Au nombre des défis qui attendent le nouveau ministre de la fonction publique, trouver un accord avec les fonctionnaires qui menacent toujours de débrayer en cas d'échec des négociations sur leurs revendications salariales. Malgré les frictions récentes avec le PDCI, son allié au sein de la coalition gouvernementale, le président Alassane Ouattara n'a donc pas éjecté du gouvernement les ministres issus de cette formation politique. Mais pour combien de temps cette alliance pourra-t-elle encore tenir? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
La mission de l'ONU au Congo a annoncé aujourd'hui qu'elle fermera à partir du 31 juillet 5 de ses bases fixes dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette fermeture intervient dans le cadre de son changement de mode opérationnel, selon le chef de la MONUSCO, Maman Sidikou. Le nouveau dispositif opérationnel consiste à privilégier la mobilité et la flexibilité des interventions militaires. Toujours en RDC, un groupe d'experts de l'ONU, dont deux membres ont été tués alors qu'ils enquêtaient sur des fosses communes dans le pays, n'a pas exclu l'implication de membres de la sécurité d'État dans le crime, selon un rapport rédigé à cet effet. Dans ce document secret, le groupe indique avoir fait des analyses préliminaires des registres d'appels téléphoniques et d'un enregistrement et avoir réalisé des interviews sur le meurtre le 12 mars de l'Américain Michael Sharp et de la Suédo-chilienne Zaida Catalan. On reste en RDC pour parler du début du procès en appel au tribunal de grande instance de Lubumbashi dans l'affaire opposant Moïse Katumbi et Alexandros Spoupis. Après la première condamnation au premier degré à 3 ans de prison pour Moïse Katumbi. Les précisions de notre correspondant Narval Mabila.
Le procès en appel opposant Moïse Katumbi Chapo et M. Alexandros Spoupis a bel et bien débuté ce mercredi, tel que fixé par les tribunaux des grandes instances de Lubumbashi. Tous les deux camps étaient représentés par leur avocat conseil. C'est pendant plus de 4 heures que les débats tournaient autour de la procédure à suivre et plusieurs exceptions ont été soulevées appelant à se référer à la Cour constitutionnelle. Comme s'exprime un avocat défendant la cause de Moïse Katumbi, Maître Mukendi.
D'après l'article 162 de la Constitution, le tribunal saisi devrait pouvoir se dessaisir et laisser donc la Cour constitutionnelle se prononcer. Le tribunal a décidé de nous répondre là-dessus par un jugement demain. Vous savez que c'est un procès équitable. Chaque personne a son point de vue. On ne peut pas empêcher à la partie adverse d'avoir un point de vue opposé au nôtre. Mais en ce qui nous concerne, nous vous garantissons que notre client estime qu'il n'y a rien au fond, n'a peur de rien.
Ces exceptions ont été rejetées par la partie adverse. Le tribunal se prononcera le jeudi matin. C'est dans les couloirs que nous avons appris l'agression du juge Jacques Mbouyi en sa résidence au quartier Golf Malela qui devait faire partie du bureau du tribunal dans l'affaire Moïse Katumbi et Spoupis, où il en est sorti blessé de plusieurs balles, où il est entre la vie et la mort dans les soins intensifs et sa famille aurait subi des violences. Les balles crépitent ça et là, malgré la présence du chef de l'État à Lubumbashi, l'insécurité se porte bien dans plusieurs quartiers, même autour de l'aéroport Lubumbashi, Narval Mabila, The Wafrique.
Le gouvernement congolais et les agences de l'ONU ont lancé un appel au financement du plan d'urgence humanitaire conjoint en faveur de 138 000 personnes en détresse dans le département du Poul, replongées dans des violences meurtrières. Les besoins humanitaires les plus urgents sont liés à la sécurité alimentaire et la nutrition, à l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène et à l'accès aux services de santé de base, précise le communiqué. Nous y reviendrons dans les dossiers d'actualité. La justice kényane a condamné mercredi 3 hommes à la prison à vie pour avoir déshabillé et agressé sexuellement une femme qu'ils trouvaient vêtue de manière trop provocante. Le jugement clôt une affaire qui avait fait descendre 1 millier de personnes dans les rues de Nairobi en 2014 en vêtements moulants pour dénoncer les agressions contre les femmes après la diffusion d'une vidéo de l'attaque. Le Burkina Faso a entamé le retrait définitif de son contingent de casques bleus du Darfour dans l'ouest du Soudan pour sécuriser son propre sol frappé par des attaques terroristes récurrentes. C'est du moins ce qu'annonce ce mercredi le ministre de la Défense. 23 migrants ouest-africains, dont une fillette de 7 ans, abandonnés par leur chauffeur en plein désert dans le nord du Niger, ont été secourus par une mission de l'Organisation mondiale pour les migrations. C'est ce qu'a annoncé hier l'agence onusienne. Par ailleurs, l'ONU a également annoncé qu'au moins 23 personnes sont mortes dans le haut Niger après des pluies torrentielles qui s'abattent dans le pays depuis juin. Reporters sans frontières dénonce la condamnation à 2 ans de prison d'un journaliste d'une chaîne privée au Niger, Baba Alpha, pour usurpation de nationalité. Dans un communiqué, RSF fustige la nature politique des poursuites, selon ses termes, et appelle les autorités à revenir sur cette condamnation. Baba Alpha et son père ont été condamnés à 2 ans de prison, 10 ans de privation de tout droit civique et politique et à 300 000 francs CFA d'amende, selon leur avocat Boubacar Mossi. Ils sont étroués depuis le 3 avril à la prison de Niamey.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Démission du chef d'état-major des armées françaises, Pierre Desvilliers, qui avait critiqué les coupes budgétaires dans la défense. Il a été remplacé par François Lecointre, jusqu'ici chef du cabinet militaire du Premier ministre Salwa Jafari.
Pierre Desvilliers a déposé son képi. Dans un communiqué, l'ancien chef d'état-major dit ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel il croit, pour garantir la protection de la France et des Français. Le président Macron, par la voix du porte-parole du gouvernement, a salué en Pierre Desvilliers un grand militaire, mais le nom de son successeur est annoncé dans la foulée, le général François Lecointre.
Le général Lecointre est un héros reconnu dans l'armée comme tel, un héros qui a su combattre.
Le départ soudain de Desvilliers est un fait historique sous la Ve République. Il intervient alors que le président a multiplié ces derniers jours les rappels à l'ordre sévères à son égard. à l'origine de la colère présidentielle. Les critiques formulées par le général sur les 850 millions d'euros d'économies réclamées cette année aux armées dans un contexte de restrictions budgétaires générales, avec une baisse prévue de 4,5 milliards d'euros des dépenses de l'État en 2017.
Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé que son pays répondrait de manière appropriée aux sanctions américaines, mais que Téhéran restait engagé par l'accord nucléaire. En vertu de cet accord de 2015, l'Iran a accepté de réduire pendant au moins 10 ans ses activités nucléaires sensibles contre la levée partielle et progressive de sanctions internationales. Au moins 30 civils ont été tués ce mercredi dans des frappes aériennes de la coalition anti-djihadiste en Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 15 d'entre eux ont été tués dans des raids sur le village de Zur Shamar, à environ 30 km de Raqqa, bastion du groupe État islamique. Par ailleurs, de violents combats entre islamistes dans le nord-ouest ont fait au moins 14 morts en 24 heures, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Quelques 20 personnes ont péri dans une frappe attribuée à la coalition arabe au Yémen. Ces victimes étaient des personnes déplacées près des Taïs, dans le sud-ouest du Yémen, aux mains des rebelles Houthis. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Jacques Aristide.
Les travaux de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, long de 1260 km, débuteront le 15 septembre. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, de même que la Citarail, filiale du groupe Bolloré qui gère la ligne, ont signé un accord hier à Ouagadougou. Le projet coûtera au total 262 milliards de francs CFA. Cette ligne représente le principal débouché maritime via la Côte d'Ivoire. Pour le Burkina Faso, c'est également le moyen de transport le moins coûteux pour les industriels burkinabés et ivoiriens. La Banque centrale de la RD Congo annonce dans un décret des sanctions contre les compagnies minières qui ne rapatrient pas 40% des recettes de leurs exportations. Le décret prévoit une amende d'1% des sommes non rapatriées et jusqu'à 200 millions de francs congolais de pénalités si les opérateurs miniers ne dévoilent pas leurs comptes bancaires à l'étranger. Premier producteur de cuivre en Afrique, le Congo voit actuellement la chute de son franc. Lancement hier à Madagascar d'une filière d'approvisionnement de vanille auprès de 3000 petits producteurs destinés à lutter contre la spéculation tout en assurant un revenu correct aux paysans. Il s'agit d'une initiative du fonds d'investissement Livelihoods montée par des multinationales de l'agroalimentaire. Elles ont investi environ 2,3 millions de dollars dans le projet qui prendra la forme d'une coopérative agricole.
Yacouba Ouidraogo est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
VO Afrique vous l'annonçait dès lundi, cette fois c'est officiel, la Coupe d'Afrique des Nations se jouera à 24 équipes en été tous les deux ans, Yacouba.
Tout à fait, ce sont les recommandations de la commission CAN alors que le symposium de Rabat se poursuit. La CAN devrait désormais avoir lieu en juin et juillet pour ne plus mettre en difficulté les joueurs qui évoluent en Europe. La co-organisation est aussi encouragée. Pour accueillir la compétition, un comité d'audit indépendant de la CAF devrait intervenir dans les pays candidats pour s'assurer que toutes les conditions requises sont réunies, comme l'état des aéroports ou le nombre d'hôtels. Le groupe de travail a aussi recommandé de combiner les éliminatoires de la CAN et du Mondial dans le but d'alléger le calendrier. Autre possibilité, organiser une CAN en dehors du continent africain. On parle notamment du Qatar qui, vous le savez, organisera la Coupe du Monde 2022.
Des recommandations ont également été faites pour les compétitions interclubs.
Oui, le groupe de travail préconise que tous les championnats débutent et se terminent à la même époque. Pour ce qui est de la Ligue des Champions, l'idée d'une phase de poule à 32 équipes est aussi évoquée.
En cyclisme Tour de France, un Slovène remporte la 17e étape.
Effectivement, Primož Roglič s'impose dans les Alpes sur la grande boucle. Le Slovène a remporté en solitaire cette première étape alpine. Le Britannique Chris Froome conserve le maillot jaune de leader. Il devance désormais le Colombien Rigoberto Urán et le Français Romain Bardet qui ont délogé l'Italien Fabio Aru du podium à 4 jours de l'arrivée finale.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, cap à présent au dossier du jour. Et on commence par la CPI où la Chambre d'appel a ordonné de réexaminer le dossier de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo pour décider s'il devrait être libéré ou non. M. Gbagbo est en prison à La Haye depuis 2011 pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre pour les violences post-électorales de 2010-2011. Timothée de Nangmaï a recueilli la réaction du journaliste et analyste politique André Silver Conan.
Quels sont les juges qui vont encore revoir cela? Ce sont les mêmes juges de la première chambre. Voilà, et donc, sur quoi est-ce que les gens se basent exactement pour demander le réexamen? Est-ce qu'il y a des nouveaux éléments qui vont donc militer en la faveur de la libération de M. Gbagbo? Je pense que tout cela dénote, si vous voulez, de ce procès qui va donc d'épisode en épisode et des rebondissements qui n'en sont pas un en réalité.
Ce développement intervient alors qu'un ancien ministre de l'ancien président Gbagbo vient d'être condamné à 4 ans de prison à Abidjan. Quelle est votre réaction?
La condamnation de M. Assou Adou pour des faits qui ont été réqualifiés au moment où on attendait des verdicts pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État, des faits réqualifiés en trouble à l'ordre public connus par une cour d'assises, mais ils ne sont pas de nature, si vous voulez, à ramener la sérénité au sein des proches de M. Laurent Gbagbo, qui estime, à tort ou à raison, souvent aussi à raison, d'être victime d'une justice de vainqueur, d'autant plus que opportunément il y a d'autres affaires dont la découverte d'une cache d'armes chez un poste de Sébastien Soros.
Est-ce à dire donc au plan tant international que national, il y a peu de chances que le droit soit dit de façon sereine par rapport aux graves incidents survenus en Côte d'Ivoire?
Oui, on a vraiment de fureuses raisons de craindre que la justice a choisi son camp, ce qui ne devrait pas l'être, puisque jusqu'à présent, 6 ans après la fin de la crise post-électorale, jusque-là, on voit donc un seul camp qui subit donc le courroux de la justice. Et quand bien même il y a eu des faits assurément graves qui ont visé aussi des proches du pouvoir, en l'occurrence la découverte d'une cache d'armes récemment, dans le camp Guillaume Soro, allié au président Ouattara. Et donc, ces derniers verdicts qui marquent donc une sorte d'hérésie de droit où on arrête et on détient quelqu'un pour atteinte à la sûreté de l'État. Et au moment où on attend le verdict de ce procès en atteinte pour atteinte à la sûreté de l'État, la cour d'assises vient et donc requalifie les faits sans même connaître le dossier de trouble à l'ordre public et prononce un verdict.
Le journaliste et analyste politique André Silver Conan joint à Abidjan.
Dans Washington Forum ce jeudi, on fait l'état des lieux de la justice sur le continent africain. Génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, torture, disparition forcée. Face aux crimes les plus graves, la CPI est-elle la seule instance internationale compétente? Des petits délits et aux questions administratives, la justice fonctionne-t-elle dans votre pays? Dans les régions les plus reculées, quelle place pour la justice traditionnelle? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Eli Kamano, artiste guinéen engagé et libre, ainsi que ses 3 compagnons, le chanteur de reggae, avait été interpellé lundi par la police lors d'une manifestation interdite de l'opposition à Conakry et placé en garde à vue. Joint par téléphone par Eki Abadou, il entend poursuivre son combat.
n'eût été l'intervention du conseiller personnel du président de la République qui était venu me voir à la veille de la marche pour me dire de revenir à la table de négociation, cette brochette de revendications qu'on avait, la veille déjà, nous avons essayé de désamorcer les choses au niveau des jeunes qui étaient prêts à agir à partir de 6 heures du matin déjà. Et nous, on était venus au point de rencontre mobiliser les jeunes qui nous attendaient pour leur dire qu'on reporte la marche parce que les autorités apparemment n'avaient pas autorisé cette marche. Arrivés sur le lieu, on a trouvé un barrage, les policiers qui étaient là. Ils n'ont même pas posé de questions, ils sont venus tomber sur moi, ils m'ont pris et on s'est battu et monté dans leur pick-up, direction ministère de la Sécurité.
Alors j'ai une question.
Et de là-bas, on m'a envoyé à la DPJ.
Qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans la rue?
On ne peut pas comprendre qu'un président qui doit quitter et terminer ses deux mandats en 2002 dise encore qu'au moment venu, le peuple décidera. Non, ce n'est pas au peuple de décider, c'est à la Constitution, c'est à toi de respecter et de faire respecter la Constitution.
Donc vous n'êtes pas optimiste pour la suite? Vous pensez qu'il va vraiment se représenter?
C'est clair pour nous, parce qu'ils ont amené cette idée pour un peu tester, pour un peu voir la réaction des gens. Et lorsque ça a été dit, personne n'a réagi négativement. Et c'est ce qui est dangereux. Vous savez, il y a eu des artistes qui ont été des meneurs des mouvements dans le monde et en Afrique. Être artiste, c'est un manteau qu'on porte. Tout le monde a le droit de manifester. Notre loi, à nous, en tout cas en Guinée, nous le concède et nous le permet. Je n'agis pas en tant qu'artiste, mais d'abord en tant que citoyen guinéen. C'est des actions préventives que nous posons. Et ces actions préventives nous amènent à réveiller et à éveiller la conscience du peuple. Ce peuple qui a une conscience endormie aujourd'hui par le pouvoir qui distribue de l'argent du contribuable pour continuer à l'enfoncer et à l'endormir, nous essayons d'attirer son attention et de lui dire de faire attention parce qu'en 2020 ou en 2018, il y a un projet qui arrive qui veut maintenir les Guinéens dans la servitude. Et ce projet, c'est un projet de troisième mandat. Ça trouvera que les tentacules et les bases sont posées pour empêcher les Guinéens de se révolter. Et nous, on l'a fait pas pour dire à quelqu'un, au président de parti du pouvoir, mais pour dire aux Guinéens, attention, si on ne fait pas, on ne prend pas garde, en 2020, le président Alpha Condé va vouloir toucher à la Constitution, va vouloir faire un référendum et s'éterniser au pouvoir.
Le chanteur guinéen Eli Kamano, joint par Eki Abadou.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Congo, le gouvernement et les agences de l'ONU ont lancé un appel au financement du plan d'urgence humanitaire conjoint en faveur de 138 000 personnes en détresse dans le département du Poul, replongé dans des violences meurtrières. Les détails avec Nguela Ngoussou à Brazzaville.
L'aide recherchée par les agences des Nations Unies va directement toucher 138 000 personnes aujourd'hui sans nourriture ni médicaments. Ces sinistrés du Poul connaissent une grave crise humanitaire à telle enseigne que 17% des enfants de moins de 5 ans sont frappés par la malnutrition aiguë. Docteur Alex Nzabana Waibika, membre de la fondation Ibina, qui s'occupe de ces quelques indigents qui se sont installés à Brazzaville.
Ils sont très malnutris, ils sont malades. C'est difficile à décrire parce que il y a déjà eu certaines personnes qui sont décédées parce que non seulement il n'y a pas l'assistance en nourriture, mais non plus pour les soins médicaux. Nous avons pu donner de la nourriture, des sacs de riz, du sucre, du lait, de ce qu'on a pu donner, mais à moindre échelle parce que, comme tout un chacun le sait au Congo, nous n'avons pas de subvention de l'État. Ils sont partis dans les familles à Madibou, à Ngangalingolo et à Makelekele, en Filou. On a essayé d'apporter ce que nous pouvions apporter. Et donc, il y a des gens qui sont déjà morts.
Les agences des Nations Unies à Brazzaville comptent d'abord sur l'apport du gouvernement avant d'espérer collecter des fonds auprès des bailleurs internationaux. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies à Brazzaville, Anthony Kwaku Oemeng, garde
espoir.
Je dois le dire, le pool de partenaires connus. Premièrement, il s'agit du gouvernement. C'est une question des Congolais. Le gouvernement est attentif. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Le 138 000 identifiés dans l'appel, c'est des personnes à qui nous avons accès. Mais oui, il y a certaines zones d'insécurité où nous n'avons pas jusqu'à présent eu accès. Et nous sommes toujours en discussion avec le gouvernement.
Les organisations de la société civile continuent d'appeler à l'ouverture d'accès dans le pool afin qu'elle évalue elle-même cette situation humanitaire. Franck Nzila, du mouvement citoyen, le ras-le-bol.
Au mouvement ras-le-bol, nous avons mené une campagne pour mettre, je dirais, en exergue cette situation difficile. Si le gouvernement congolais dit qu'ils n'ont plus les moyens, entre guillemets, pour assister les populations du pool, on demande au gouvernement congolais d'arrêter d'acheter des armes, d'arrêter d'entretenir la guerre pour que cet argent qui existe soit, je dirais, orienté vers des choses positives et bonnes pour le Congo.
Depuis avril 2016, les forces armées pourchassent le pasteur Ntumi et ses hommes, les ninjas, dans le pool. Les populations prises dans l'étau se réfugient dans les forêts où elles sont sans assistance. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Encore des attaques à la grenade ces derniers jours au Burundi, au moins ce 3 à moins d'un mois, ayant fait 8 morts et une centaine de blessés dans divers coins du Burundi, notamment au nord du pays et dans la capitale Bujumbura. Reportage de Christophe Nkuruziza à Bujumbura.
Des échafaudés, la nuit de mardi à mercredi à la prison centrale de Gitega, au centre du Burundi, une grenade qui explose dans un bistrot à Biza dimanche au centre de Bujumbura, où une autre grenade avait fait au moins 15 blessés, tandis qu'une grenade a explosé il y a quelques jours dans un cabaret à Kayanza au nord du Burundi, faisant 8 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. Voilà un bilan documenté par la police. Cette résurgence de la violence arrive alors que la police affirme qu'elle recherche toujours les criminels. Ils disparaissent dans la nature chaque fois qu'il y a intervention de la police. Mais ces derniers mois, un calme relatif était remarqué sur quasiment plusieurs localités de l'intérieur du pays et même de la capitale. Les ministres de la Sécurité publique, Alain-Guillaume Bouyoni, évoquent des cas de terrorisme à mairie de Bujumbura sous forme de jets de grenades dans des bars ou chez des particuliers, mais demande à la population de demeurer sereine et vigilante.
Nous avons connu quelques cas de jets de grenades durant ce dernier trimestre. Même au niveau de l'intérieur, on a eu quelques cas de jets de grenades, ce sont des manières terroristes de semer la panique dans les gens et ils sont classés parmi les méthodes terroristes, c'est-à-dire qu'ils peuvent, en un petit laps de temps, faire trop de dégâts. Ce n'est pas seulement au Burundi, il y a des pays où chaque minute il y a 3 personnes qui meurent par balle, par grenade. Et nous avons encore un peu de chance de souffler malgré les cas qui nous dérangent.
Le ministre Bouyoni minimise ces explosions de grenades.
Au Burundi, on ne dirait pas qu'il y ait une situation grave parce qu'il y a eu ces jets de grenades. Je crois qu'on en a enregistré beaucoup plus les temps passés et les mois passés que l'action conjuguée des forces de défense de sécurité ont pu ramener ces criminels qui utilisent cette méthode à la raison. Sinon, on était contraints par la loi à ne plus le faire. Et quelques suspects sont déjà appréhendés.
Pour la Fédération internationale des droits humains, FIDH en sigle, le Burundi s'enfonce dans la violence depuis la décision du président Pierre Nkurunziza de briller en troisième mandat. La FIDH donne un bilan sombre de plus de 1200 personnes tuées, des centaines de disparitions forcées de plus de 400 000 personnes réfugiées dans les pays voisins, chiffre toujours contesté par le pouvoir de Bujumbura. La FIDH pointe du doigt la communauté internationale qui a échoué toutes les tentatives de médiation et de protection de civils. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633 et au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Vite Afrique.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise à nom de par Michel Joseph. Alfredo Santos était à la console. Présentation, John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.